Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons notre série sur l'importance de la rédemption. L'importance de la rédemption. Aujourd'hui, nous sommes à l'étude numéro 3 et le titre de cette étude, c'est « L'origine du mal ». L'origine du mal. Hélas, l'harmonieuse unité des globes fut rompue, et dans cet univers promis aux plus hautes destinées et créé par Dieu pour servir de vase à sa gloire, voilà qu'une rupture est intervenue. Le péché s'insinua et se dressa, voulant donc faire carrément échec au plan de sainteté, au plan d'amour établi par le Créateur pour la révélation de soi-même. Il s'introduisit donc dans le monde céleste, là, dans ce monde céleste au-dessus, et tout cela par la rébellion née au sein des anges. Souvenez-vous, pour ceux qui ont l'habitude de lire le Saint-Livre, et sur la terre, cela a amené la dévastation consécutivement à la chute d'Adam et Ève et au péché ultérieur de toute l'humanité adamique. Vous pouvez noter Genèse, chapitre 3, versets 1 à 7 et les versets 17 et 18, ainsi que Romains, chapitre 8, versets 20. Bien entendu, vous l'avez compris, j'essaie toujours de me référer aux Saintes Écritures. Pourquoi cela? Mais pour éviter que quelqu'un puisse penser ou dire que cela pourrait être de mes propres imaginations ou idées. Et donc, pour éviter cela, j'essaie toujours de tout faire pour bien étudier les sujets à fond, aussi bien avec la Bible allemande, puisque je suis de langue allemande, mais pour vérifier dans les versions françaises et anglaises. Et sans oublier les versions catholiques telles que les moines de Maritzou et donc la Bible de l'abbé Crampon. Cela pour qu'on comprenne bien que c'est sérieux. Alors, comment tout cela a été possible? Pourquoi Dieu a-t-il pu permettre une telle chose? Eh bien, au fond, personne ne peut à cela donner une réponse satisfaisante, car l'origine du mal demeure un mystère, et les quelques indications de l'Écriture sainte ne peuvent être regardées que comme une simple suggestion. Nous ne savons pas tout, et tout nous a pas été révélé. Il faut accepter cela, et il y a des raisons à cela. Nous continuons. Premièrement, nous avons donc Satan avant la chute. Voyez-vous, il semble que le royaume universel de la création soit divisé en un certain nombre de provinces dont l'organisation matérielle et spirituelle est impartie à un prince ou ange bien déterminé. C'est ainsi que la Sainte Bible mentionne des anges pour les enfants. Vous pouvez noter Saint Matthieu, chapitre 18, verset 10, pour les adultes, Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 15, et pour les territoires des nations, comme par exemple la Perse, Daniel chapitre 10, verset 13, la Grèce, Daniel chapitre 10, verset 20, ou Israël, confirmé par Daniel chapitre 10, verset 21, et le chapitre 12, verset 1. Il en découle donc qu'il existe des organisations d'anges dans le monde de lumière comme dans celui, hélas, des ténèbres. Ils détiennent le pouvoir dans certaines régions, on dit, n'est-ce pas, des princes de démons dans certaines régions, et vous pouvez bien comprendre que ce qui se passe à l'heure actuelle, dans la Corée du Nord, ce n'est pas totalement farfelu. Ça pourrait même dégénérer comme quelque chose de très, très grave. Et ça, c'est l'œuvre de certains princes de démons qui règnent donc sur des pays comme l'Iran et bien d'autres pays, évidemment. Donc, c'est super ou prince des démons détiennent le pouvoir dans certaines régions, tenant donc des rangs différents selon l'importance de leur territoire respectif. Les Saintes Écritures parlent par exemple de l'archange Michel et de ses anges. Mais les Saintes Écritures parlent aussi du dragon et de ses anges. Et là, notez, Die Offenbarung, donc Apocalypse, chapitre 12, verset 7. Évidemment, Saint Paul, il parle de trône et il parle de gouvernement et de principauté et autorité dans le monde invisible. Notez Colossiens, chapitre 1, verset 16, et Éphésiens, chapitre 1, verset 21. Avec sa chute, Satan était sans doute un de ces anges spéciaux chargés d'une région très puissante. Cela paraît découler de la position d'autorité qu'il détient aujourd'hui encore. Le fait qu'il agisse sur la terre suggère que la région qui lui fut impartie incluait au moins la terre avec l'atmosphère qui l'environne. Ceci trouve de plus une confirmation définitive dans la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus lui-même désigna Satan comme étant le prince de ce monde. Notez Saint Jean chapitre 12 verset 31, chapitre 14 verset 30, chapitre 16 verset 11, et Saint Paul l'appela le prince de la puissance de l'air dans Éphésiens chapitre 2 verset 2. Lors de la tentation au désert, lorsque Satan a offert à Jésus les royaumes de la terre, rappelez-vous qu'il a dit « Je te donnerai avec toute leur puissance, avec toute leur gloire, je te les donnerai, hein, tous ces royaumes, car elles m'ont été données ou imparties, et je les donne à qui je veux. » Saint Luc chapitre 4 verset 6. Notre Seigneur a reconnu cette autorité, et cela à tel point qu'il ne contesta nullement le pouvoir que a le diable de disposer des royaumes du monde et de leur gloire. Saint Matthieu 4, verset 8 à 10. Et notez aussi, Apocalypse chapitre 11, verset 15. Donc, le royaume du monde, il est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et Révélation, Apocalypse, chapitre 19, verset 6, nous montre clairement que jusque-là, le royaume du monde appartient à un autre, et oui, c'est-à-dire au prince de ce monde. Et nous comprenons ainsi pourquoi l'archange Michel, lorsqu'il a contesté avec le diable au sujet du corps de Moïse, rappelez-vous, il n'a pas prononcé contre lui un jugement injurieux, comme certains serviteurs de Dieu, parfois un peu surexcités, osent le faire en l'insultant dans des meetings de guérison. Nous devons faire attention à cela. Mais nous devons toujours imiter, bien essayer de comprendre qu'est-ce que Christ Jésus nous recommande, qu'est-ce qu'il nous enseigne. Le Seigneur a simplement dit, et l'archange Michel a dit, que le Seigneur te réprime. Que le Seigneur te réprime. Donc la position de gouverneur sur cette région de l'univers, Satan la conserva en effet même après Golgotha et la Pentecôte, ce qui faisait dire à l'apôtre Jean que le monde entier repose dans le malin. Premier épître de Saint Jean, chapitre 5, verset 19. De son côté, Saint Paul mentionne à plusieurs reprises l'autorité de l'ennemi. Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 18, Colossiens, chapitre 1, verset 13, et ajouté Éphésiens, chapitre 2, verset 2. Et l'apôtre Paul a employé le mot grec « exousia », ce même mot qu'il emploie en Romains, chapitre 13, verset 1 et le verset 2, pour désigner les officiers romains, une comparaison. Il est donc aisé d'en conclure que la sphère d'influence de Satan équivaut à un royaume. Saint Matthieu 12, verset 26. Deuxièmement, nous avons la chute de Satan. Dans les temps qui ont précédé notre histoire, il a dû y avoir un moment où, renonçant à obéir au Très-Haut, ce prince du monde, ce Lucifer, porteur de lumière de la gloire divine, il était cela au début, et il est devenu l'adversaire, ce qui veut dire celui qui s'oppose à Dieu, et il est devenu ainsi le calomniateur de ses saints. Et depuis lors, une puissante brèche a comme fissuré le cosmos et un royaume satanique organisé a vu le jour en opposition au royaume universel de Dieu. Notez Saint Matthieu chapitre 12 verset 26. Satan s'est entouré de princes et d'autorités. Daniel chapitre 10 verset 13 et le verset 20 et ajouté Éphésiens chapitre 6, verset 12. Dès lors, le thème est le sujet essentiel de l'histoire universelle telle que l'esquisse l'Écriture sainte et ne pouvait donc plus être que l'antagonisme qui le dresse en quelque sorte contre le royaume de Dieu. La description que Ésaïe fait de la chute du royaume de Babylone semble bien, comme le supposaient déjà les rabbins, inclure donc dans sa perspective la chute de ce puissant prince de lumière. Il est dit dans Isaïe, pour les catholiques, mais ça veut dire Ésaïe, chapitre 14, verset 12 à 15, il est dit: comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur: je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité oui, précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 15. Et Ézéchiel, Ézéchiel aussi, semble tirer de cet événement préhistorique sa description de la chute de Tyr. Il dit, Ézéchiel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, tu étais parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucles, d'émeraudes et d'or. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. En effet, tu as été intègre dans tes voies au début, c'est-à-dire depuis le jour où tu fus créé. N'oubliez pas que Lucifer, Satan, il a été créé comme les autres anges, ce qui n'est pas le cas du Fils de Dieu. Il a été créé. Et donc, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où, malheureusement, l'iniquité a été trouvée chez toi. Alors, Dieu a dû dire, je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur. Ézéchiel 28, versets 12 à 15. Et le verset 17, ces quelques textes mis à part, l'Écriture sainte ne dit presque rien au sujet de la chute de Satan et rien du tout d'une manière directe. Tout ne nous est pas révélé. N'oublions jamais que notre vie ici-bas, elle est de très courte durée par rapport à l'éternité. Et donc, Dieu sait très bien ce qu'il fait et ce qu'il a fait. Son but n'est pas de donner une vue systématique du monde ou de l'éternité, mais plutôt de montrer par le moyen de l'histoire et de la prophétie le chemin qui mène à la rédemption. Aussi ne parle-t-elle de l'origine du mal que d'une manière indirecte, comme en quelque sorte un arrière-plan qu'elle suggère figurativement et quasi accidentellement. Les choses cachées sont donc à l'Éternel, nous est-il dit dans Deutéronome, chapitre 29, verset 29. Troisième moment, nous avons le premier péché et l'état du monde. À la chute de Satan, il faut associer la ruine de la région sur laquelle il règne. Cela est rendu évident par la relation organique qui lie l'esprit à la matière, ainsi que par la chute ultérieure de l'homme, similaire bien que moins étendue dans ses conséquences. Notez Genèse, chapitre 3, verset 18. Les catastrophes universelles et terrestres qui ont suivi constitue la réponse de la justice divine à cette révolte cosmique. La création fut alors soumise à la vanité. Romains, chapitre 8, versets 20 et 21. Quant aux détails, nous les ignorons. Une seule chose est certaine, la mort et la destruction ont fait rage sur la terre dans le monde des plantes, ainsi que dans le monde des animaux, et cela bien longtemps avant l'apparition de la race humaine. Les strates géologiques, pareilles à un immense cimetière, emportent les traces évidentes. Beaucoup d'animaux des temps préhistoriques semblent bien avoir été des monstres terribles, et vorace, doué d'un cruel pouvoir de destruction. Ainsi, le paléontologue R. Van Hoyne, il rattache le fait de la mort dans la création pré-adamique tout simplement à la chute de Satan, qui est le prince de ce monde. Le témoignage de l'Ancien Testament s'y accorde également. Il rapporte que la mission de l'homme n'était pas seulement de cultiver le jardin, mais encore, surtout de le garder. Le fait pour l'homme d'être tenté par une puissance extérieure hostile et opposée à Dieu montre donc que le mal n'a pas pris naissance en l'homme comme on le pense, mais a existé en une autre créature précédemment à sa chute et à la malédiction terrestre qu'elle entraîna. Et bien avant que l'homme existait donc déjà dans la création, il y a eu une rupture et une désharmonie. Dans le passé le plus lointain, comme dans le présent, il s'est trouvé des hommes de grande lucidité spirituelle pour affirmer que le travail des six jours de la Genèse, chapitre 1, fut à proprement parler un travail de restauration. Un travail de restauration plutôt que la création originelle de la terre. Et dans cette optique, on reconnaît pour tâche initiale de l'homme le nouveau gouverneur de la création, la reconquête de la terre, maintenant renouvelée. Il faudrait donc placer les périodes géologiques avant le travail des six jours, qu'il s'agisse de jours de 24 heures ou qu'on y voit de longues périodes correspondant aux âges géologiques du développement de la Terre. Une réconciliation est ainsi rendue possible entre le récit biblique des origines du monde et les théories de la philosophie naturelle moderne. Pour d'autres, tout le développement serait une séquence continue et uniforme sans que l'on doive y reconnaître d'entière destruction ou de restauration de la terre. Ce serait, selon eux, un simple mais colossal processus distribué sur des périodes créatrices immenses, oui, sous la direction divine et ultérieurement à la chute de Lucifer. Et ce processus se serait donc déroulé suivant une méthode qui échappe à la recherche scientifique. Ainsi, les formes de vie seraient-elles apparues en une graduelle ascension, sans exclure toutefois la possibilité d'intervention négative de la part de Satan. Indépendamment de tout lien de descendance avec le monde animal, l'homme serait enfin venu sur la scène des événements mondiaux, commençant sa course terrestre dans le jardin du paradis préparé expressément pour lui. Néanmoins, il est vrai, il ne peut y avoir de connaissances absolument certaines à ce sujet, et la pensée, plus encore que toute autre manifestation de notre présente existence, est donc troublée précisément par cet événement premier, le mal entrant dans le monde et conduisant au désordre la création de Dieu originellement pure et bonne. Nous ne pouvons donc nous forger une opinion tout à fait adéquate et certaine, ni quant aux faits eux-mêmes. La seule chose qui nous soit permise est de reconnaître le poids de ce mystère et d'agir en ce qui le concerne selon selon notre conscience et selon la lumière de notre responsabilité. Soyons donc assez humbles pour confesser ouvertement notre ignorance, sachant que la suprahistoire universelle ne peut être appréhendée par les pensées terrestres. Notre intellect, trop souvent, voit les choses éternelles comme apparemment contradictoires pour la seule raison que tomber dans le péché et l'esclavage, il est lui-même en opposition aux lois de l'autre monde. Aussi n'y a-t-il rien, absolument rien, qui soit plus irrationnel que le rationalisme. Quiconque veut donc jeter un regard dans les secrets de Dieu doit être revêtu de ce triple ornement de l'humanité, c'est-à-dire du respect et de la foi. L'âme qui expérimente ces choses peut seule confier au Très-Haut, dans la paix et le repos, toutes les choses qu'il ne lui a pas paru utile de nous révéler. Notez Romains, chapitre 11, versets 33 à 35, ainsi que Job, chapitre 38, les versets 4 à 7. Dans l'éternité, croyez-moi, tout sera rendu clair. Là, lorsque notre Seigneur viendra, eh bien, tous les voiles vont totalement disparaître, selon 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 9 à 12. Mais jusqu'à ce jour-là, c'est dans l'espérance que nous l'attendons. Chers amis, Dieu a établi l'humanité sur la terre. En Éden, il a planté un jardin merveilleux qui devait faire les délices et le plaisir de son possesseur. Éden veut dire en effet la terre, une terre de délices, agréments et charmes. Le paradis était le commencement du chemin que Dieu se proposait de faire parcourir à l'homme ici sur la terre. Si donc le Nouveau Testament est la vérité, alors la Genèse chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, c'est de l'histoire. Et celui qui discute ou rejette cette histoire des premiers commencements et par là en opposition totale avec l'autorité absolue du Seigneur et de ses apôtres. Il fut donc, en fait, premièrement, il fut le foyer d'une indescriptible béatitude. Deuxièmement, il fut le point de départ d'une mission glorieuse. Troisièmement, il fut l'arène d'un gigantesque conflit. Quatrièmement, il fut la scène d'une chute tragique. Et dès lors, cinquièmement, il fut le but nostalgique de l'attente humaine. Donc, chers amis, nous avons premièrement le foyer d'une indescriptible béatitude. L'homme nouveau, seigneur de la création terrestre, régnait majestueusement sur le jardin et tout le travail de ses mains prospérait. Les fleurs s'épanouissaient avec une beauté que l'homme n'a plus jamais contemplée. Et les arbres portaient les fruits les plus savoureux. Dans le règne végétal comme dans le règne animal, prévalait un merveilleux souffle de paix céleste. Bien plus, le Créateur de l'univers lui-même, il entretenait avec l'homme une relation sans ombre, lui offrant la joie de sa présence bénie. Notez la Genèse, chapitre 3, verset 8. On ne peut savoir avec une absolue certitude où était situé le paradis terrestre, mais on a suggéré que ça pourrait être l'Arménie ou le désert arabo-syrien. Mais Dieu n'a pas placé l'homme dans le paradis uniquement pour sa seule satisfaction. Il a placé l'homme là pour le cultiver et pour produire du fruit. Le jardin était donc, deuxièmement, le point de départ d'une mission glorieuse. Oui, le point de vue de l'histoire du salut, Dieu, le monde et l'homme, sont les trois réalités essentielles de tout ce qui existe. Il appartient à notre entendement et les distinguer. Donc, nous devons les distinguer, c'est ce que je voulais dire. Cela appartient donc, je répète, à notre entendement de distinguer tout cela. Donc, un triple, ou plutôt une triple connaissance, a donc été accordée à l'homme, la conscience de Dieu, du monde et de soi, et pour cela, le Créateur nous a donné les éléments qui rendent possible cette triple connaissance. L'homme prend donc conscience du monde à travers les sens tels que le goût, l'odorat, le toucher, l'ouïe et la vue, mis en exercice par les organes corporels, le palais, le nez, les nerfs, les oreilles et les yeux. Et c'est à travers le corps que nous atteignons la conscience matérielle ou sensorielle. Nous reconnaissons l'ego à travers l'âme, car l'homme est bien plus qu'un chaînon. Fût-il remarquable de la nature externe, il est l'homme doué de volonté et d'une personnalité individuelle. C'est directement à travers sa propre essence intérieure, c'est-à-dire son âme, qu'il atteint la connaissance ou la conscience de soi-même. Enfin, pour qu'il puisse s'élever jusqu'au Créateur, Dieu lui a donné l'esprit. Et à travers l'esprit, l'homme atteint la connaissance ou la conscience de Dieu. Ainsi, l'homme est une trinité dans l'unité, ou pour mieux dire, une triunité. Son être intérieur invisible se compose de deux réalités qu'il convient de distinguer très clairement. Premièrement, la parole de Dieu est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, selon Hébreux, chapitre 4, verset 12. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, est-il dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, et Saint Luc, chapitre 1, verset 26 à 27. L'esprit est donc la partie de notre personnalité dirigée vers le divin et vers le suprasensoriel. L'âme, par contre, comme constituante inférieure, je répète, l'âme est une constituante inférieure de notre homme intérieur et elle a donc comme objet le terrestre et le créé. Tandis que, n'oublions jamais, l'esprit élève à la conscience de Dieu. L'âme est le lien de connexion entre l'esprit et le corps. L'esprit ne peut agir sur le corps que à travers elle, car l'esprit est à l'âme une substance tissée du dedans et d'en haut, comme le corps est tissé du dehors et d'en bas. L'âme forme donc une sorte de corps pour l'esprit, de même que enveloppée du corps, elle en est le cadre matériel, selon Tertullien. Donc, l'âme n'atteint que la conscience de soi, et encore, n'y parvient que avec l'aide de l'esprit. Alors les saintes écritures enseignent que le corps doit être un temple pour le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Donc le corps doit être un sacrifice ou un culte raisonnable pour le service de Dieu. Romains chapitre 12 verset 1. Et le corps doit être également un moyen de glorifier Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20. Et doit être une semence pour le corps spirituel à venir. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 43 à 47. Le tabernacle est une image de cette triunité de la personnalité humaine. Le chrétien se trouve dépeint en une figure analogue et son esprit est le sanctum, sanctorium, c'est-à-dire le lieu très saint, l'habitation de Dieu dans les ténèbres où la foi croit sans voir, ni sentir, ni toucher. L'âme est donc le sanctum ou le lieu saint. Et là se trouvent sept lampes, c'est-à-dire toutes sortes d'entendements, discriminations, connaissances et perceptions des choses visibles. Le corps est donc l'atrium. Il est le parvis, manifeste donc chez tout homme de telle manière que l'on puisse voir ce qu'il fait et comme il vit. Ainsi donc, dans la nature de l'homme se correspondent premièrement la conscience du monde, le corps et l'atrium, le parvis. Deuxièmement, la conscience de soi, l'âme et le lieu saint. Troisièmement, la conscience de Dieu, l'esprit et le lieu très saint. C'est du lieu très saint, de l'esprit, que Dieu gouverne l'âme et le corps. Je répète, c'est du lieu très saint, de l'esprit, que Dieu gouverne l'âme et le corps. Et c'est là que repose, pareil à l'arche de l'Alliance, la loi divine immuable, préservée en la conscience. C'est le lieu effectif de la révélation du Dieu très haut en nous, de même que dans le tabernacle, Dieu habite au-dessus des chérubins. La présence intérieure de l'Esprit de Dieu dans le régénéré est elle-même semblable à la nuée de gloire, c'est-à-dire la Shekinah, dont le trône de grâce était alors habité. Le trône de Dieu en nous est en effet non point un trône de jugement, mais un trône de grâce. Un trône de grâce est le sceptre de sa souveraineté et le salut. Comme le tabernacle, nous pouvons, là, habitation momentanée du pèlerin, nous pouvons traverser le désert du monde jusqu'au bout, la Canaan céleste et l'éternité également, selon 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 1 à 4. Sachant donc que telle est la vocation de l'homme, nous pouvons comprendre pourquoi le premier chant poétique de la parole de Dieu se rapporte précisément au récit de la création de l'homme, couronne de la création. La poésie hébraïque, on le sait, elle est faite d'un rythme de la pensée ou parallélisme des termes verbaux et non d'un rythme des sons. Et c'est donc ainsi que l'Écriture sainte célèbre la création de l'homme qui est la Triunité, qui est l'œuvre merveilleuse du Dieu Tri-un, par une triple rime de pensée, oui, un triple que Dieu créa. Il est dit, et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. Genèse, chapitre 1, verset 27. Mais, la véritable ressemblance à Dieu consiste pour l'homme non pas tellement en ce que constitue ou en ce que constitué d'un esprit et d'une âme ainsi que d'un corps, il soit une triunité dans l'unité, reflétant ainsi la triunité d'être de son Créateur, ni même en ce que son corps ait été formé à l'avance, en conformité au corps de résurrection du Fils de Dieu glorifié. Oui, ce corps, ayant en fait exister éternellement dans la pensée du Créateur en tant que prototype, mais bien plutôt en ceci, un être spirituel et moral, et il exprime tout cela en qualité de créature, les caractéristiques intérieures de Dieu. Donc, d'après l'enseignement biblique, la ressemblance qui unit l'homme à Dieu a donc deux aspects. Il y a tout d'abord une ressemblance qui pourrait se perdre et fut effectivement perdue par la suite. C'est vrai, la rédemption seule peut la rendre à l'homme. L'homme est donc l'image de Dieu au sens large, dans la mesure où il est une personnalité morale indestructible, faite de conscience de soi, d'entendement, de raison, jugement moral, conscience et volonté libre, apte à gouverner, il est encore en cela l'image du Seigneur de l'univers, selon la Genèse, chapitre 1, verset 26 à 28. Dans la perspective du plan de Dieu, c'est là son image, c'est là la figure essentielle de la nature humaine en elle-même et sans laquelle l'homme cesserait simplement d'être homme. En fait, et intérieurement, cela ne se réalise que si l'homme reflète réellement la nature spirituelle et morale de Dieu par une sainteté et un amour pratique. Ça, c'est l'image de Dieu dans le sens plutôt étroit de condition et de possession. Dans le premier sens conventionnel, l'image de Dieu subsiste malgré la chute. Par contre, en tant que possession intérieure effective, elle est perdue. Les roues du mécanisme subsistent, mais son fonctionnement est dérangé. La fleur et son calice sont encore là, mais l'éclat coloré et le parfum ont disparu. Et de là, la nécessité de la rédemption. Dieu lui-même est le prototype. Spiritualité, liberté et béatitude forment les trois caractéristiques de sa nature sainte et aimante. Sa gloire doit se manifester en l'homme comme en une copie. Et c'est pourquoi il le gratifie et il l'équipe des trois pouvoirs spirituels et psychiques de son être intérieur. je répète, et c'est pourquoi il, Dieu, le gratifie et il l'équipe des trois pouvoirs spirituels et psychiques de son être intérieur. Il lui donne donc volonté, intellect et sentiment afin qu'il puisse être participant de la liberté de son amour. Il lui donne la volonté et cela afin qu'il puisse refléter en toutes circonstances la spiritualité divine. Il lui dispense l'intelligence, enfin, il lui donne les sentiments afin qu'il puisse se réjouir des divines bénédictions. Nous avons donc besoin de la sanctification. Et c'est pour cela que le but de toute sanctification est dépeint dans le Nouveau Testament d'une manière correspondante en ce qui concerne la puissance spirituelle de la pensée. Et nous, nous y trouvons comme ayant revêtu le nouvel homme qui se renouvelle jusqu'à la pleine connaissance, littéralement, selon l'image de celui qui l'a créé. Colossiens chapitre 3 verset 10. En relation avec la condition morale de la volonté, il y est dit que le nouvel homme, selon l'image de Dieu, est créé dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Éphésiens 4 verset 24. Enfin, pour ce qui se rapporte à l'existence et à l'expérience joyeuse de la gloire de Dieu, qui avec toute la personnalité, raison et volonté, inclut en même temps la joie des sentiments, nous lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, « Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, l'image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit Saint. » 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Donc, ce que Dieu, le Père, a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Romains, chapitre 8, verset 29. L'image du Père n'est autre que le Fils unique. Colossiens, chapitre 1, verset 15, et notez également Hébreux, chapitre 1, verset 3. En cette image, selon son image, Dieu créa l'homme. Et c'est pourquoi l'image du Père s'extériorise en nous par l'image du Fils. Dans le Fils, nous sommes destinés à être également des fils. C'est en cela que consiste notre ressemblance à Dieu, selon 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9 et la première épître de Saint Jean chapitre 3 verset 2. Christ, et il est le centre historique du salut, et il est en même temps le prototype de l'ultime perfection de l'univers. De plus, la conformité au Christ est le but final de la rédemption, non seulement sur le plan moral, mais encore en ce qui concerne le corps spirituel futur. Et c'est pourquoi le Christ entra dans la gloire avec un corps humain glorifié. Saint Jean, chapitre 20, versets 14 à 29, et notez Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 11. Et nous l'en attendons, nous l'attendons comme sauveur, lui qui doit rendre notre corps d'humiliation, de le rendre conforme au corps de sa gloire. Philippiens, chapitre 3, verset 21. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme, il est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 47 à 49. Le but est donc le suivant. Quand ce corps spirituel sera donné, selon Romains 8, verset 23, le but de tout salut sera complètement atteint. La nature du royaume de Dieu se déploiera, vérité, justice et paix, selon Romains, chapitre 14, verset 17. Et la gloire habitera tous ceux qui se réveilleront à l'image de leur Dieu. Liberté, spiritualité et béatitude du Créateur seront parfaitement déployées dans la sainteté de leur volonté, dans la sagesse de leur connaissance et dans la plénitude heureuse de leurs sentiments. À tout cela s'ajoute quelque chose de spécial. Car par la création de l'homme, Dieu a la pensée manifeste d'en faire une créature pure, pure et heureuse, étant capable de le glorifier à l'exemple des anges. Mais encore, il le charge d'une tâche spéciale et rapport qui est en rapport avec la terre, avec cette terre que Dieu lui a confiée comme étant la sphère de gouvernement. L'homme est donc le gouverneur de la terre. Il est dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Genèse 1, verset 28. Ces mots expriment pleinement l'office royal de la race humaine. La capacité lui en est donnée. C'est l'esprit humain qui se révèle principalement à travers la faculté du langage. Qu'est-ce que un mot ? C'est un son, c'est une note, c'est une tonalité qui sort de la bouche. Mais bien plus encore, c'est le porteur d'un mouvement de l'esprit, c'est un instrument de l'intelligence, donc un signe sonore et un symbole tangible d'une activité de l'âme. Ce n'est que à travers ce don de l'esprit et de la parole que l'homme devient réellement homme, ainsi seulement qu'il reçoit la capacité de se développer intérieurement. Le singe n'est absolument pas à être comparé à l'homme. C'est donc par la parole que Adam au paradis commence l'exercice de son autorité royale. Dès le début, avant même la création de la femme, Dieu lui a amené les créatures de la terre ou des nues, afin que, discernant leur nature, il puisse leur donner un nom approprié. Notez la Genèse chapitre 2, verset 20. Et deviennent ainsi leur roi, couronné par le Créateur. Spirituellement parlant, le langage devient, pour ainsi dire, le sceptre de l'humanité. Voyez-vous, le langage n'est donc pas, comme l'affirment certains philosophes non-croyants, ce n'est pas une invention de l'homme forgée petit à petit au sein de la société au moyen d'échanges mutuels. Dieu parla à Adam avant même de lui donner Ève. De même, Adam a fait usage du langage pour l'appellation à donner aux animaux. Le langage est bien plutôt une émanation instinctive de l'esprit qui, sortant par la bouche, est une révélation perceptible de l'intelligence. Esprit audible, dira Bétex et Platon. En tant qu'aptitude inhérente, le don du langage était présent en l'homme depuis le commencement, mais il demandait à être libéré. Ce que Dieu a fait en laissant à l'homme le soin de donner un nom aux animaux, pas ce que fut le langage originel dans le paradis. Eh bien, chers amis, on ne peut évidemment pas le déterminer avec certitude. J'ai déjà dit, il ne nous a pas tout été révélé. Donc, quelle était, chers amis, la teneur du mandat? Eh bien, la terre, au moins en dehors du paradis, bien que créée et gouvernée par le Très-Haut, donc cette terre n'avait pas encore complètement atteint son but, car partout existait, au temps où l'homme fut créé, la condition de désharmonie introduite par la chute de Satan. Romains chapitre 8, versets 20 et 21. L'histoire biblique des commencements indique, dans une certaine mesure, que la terre elle-même, en dépit de son divin recommencement, établi avec la création de l'homme, était encore partiellement sujette à l'opération des puissances démoniaques. Et cela ressort du commandement donné par Dieu à l'homme, non seulement de cultiver le jardin, mais encore de le garder. Et cela découle aussi du fait qu'il fut tenté par une puissance hostile à Dieu apparaissant sur la terre. Par ailleurs, si la terre avait été partout un lieu de vie et de perfection absolue, il y aurait eu nul besoin d'un paradis. De toute évidence, le premier homme créé était de beaucoup supérieur à la terre de par son habileté et par sa charge. Il convenait donc qu'une région spéciale lui fût préparée, qui soit une résidence en rapport avec son rang et avec la dignité de son appel. Ainsi, l'établissement du jardin paradisiaque du point de vue de la Bible témoigne du caractère encore imparfait de la terre en dehors du paradis. Et l'extension du gouvernement, mais dans la soumission à Dieu, cela signifiait que les choses terrestres dans la sphère mondiale des intérêts moraux allaient être progressivement ramenées à Dieu par une conduite constante de la création vers la rédemption et vers la perfection. Le paradis était le point de départ de la nature dans son ascension vers la sphère de l'esprit. Tel était donc le but que Dieu lui avait assigné, de telle sorte que, à partir de là, la terre entière se développa en un paradis. Le jardin est donc le lieu très saint. Éden, c'est le lieu saint, et toute la terre environnante, c'est le parvis. Le but est la transfiguration du tout à la ressemblance magnifiée du très saint. Et dans cette optique-là, Adam doit donc être regardé non seulement en tant qu'individu, mais encore comme ancêtre et représentant organique de toute sa descendance déjà vue en principe en lui. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 22 et Romains chapitre 5, verset 12 à 21. Et c'est pour cela que Dieu dit premièrement, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre, et après seulement, assujettissez-la et dominez sur elle. Genèse chapitre 1, verset 28. Le jardin du paradis est un commencement et une fin. C'est le départ et l'arrivée. C'est la base du programme et le type de toute la tâche de l'homme sur la terre. Ce but ne peut être atteint par l'homme que au sein d'un conflit moral dans lequel il ait la redoutable possibilité de céder, hélas, au mal. Il ne peut donc conquérir ou soumettre. Il ne peut obtenir la couronne du vainqueur, et cela que au sein d'un conflit. Satan, par ailleurs, qui est l'adversaire de Dieu, ne saurait admettre que l'homme créé, pur et bon par son ennemi, reste inattaqué, voyez-vous ? Et dès le début, s'ouvrira donc une lutte hautement significative, faisant du paradis, troisièmement, l'arène d'un gigantesque conflit. Je répète cela, Satan, par ailleurs, et nous le savons, il est l'adversaire de Dieu. Et de ce fait, Satan ne saurait admettre que l'homme qui a été créé pur et bon par son ennemi, l'ennemi de Satan, c'est qui ? C'est forcément Dieu. Et dès le début, va donc s'ouvrir une lutte hautement significative, faisant du paradis, troisièmement, l'arène d'un gigantesque conflit. Et c'est par là, par le paradis, que entra dans le cadre cosmique de la supra-histoire universelle, derrière le jardin, s'étend le monde de Dieu et des étoiles, et en arrière-plan se dessine la plus grande révolte qui ait jamais existé, c'est-à-dire le conflit qui opposa Satan à Dieu. L'objet de la tentation était évidemment adapté à l'intelligence infantile de la jeune humanité. Et de là, le fameux commandement relatif aux fruits de l'arbre. On pourrait objecter que manger du fruit défendu n'est au fond qu'un petit péché qu'on mordre en cachette dans une friandise. Mais le péché du premier couple n'était pas simplement d'avoir voulu goûter le fruit, mais d'espérer atteindre une gloire qui serait égale à Dieu par un chemin prohibé et en dehors de son contrôle. Genèse chapitre 3, verset 5. Cette prohibition du fruit de l'arbre était donc essentiellement spirituelle, puisqu'elle établissait sur l'homme l'autorité de Dieu, seule véritable source de tout ce qui est bon. En n'en mangeant pas, c'est-à-dire par la victoire sur la tentation, la conscience morale d'Adam, par l'exercice de sa liberté de choix, elle a atteint la liberté d'autorité et son service de gouverneur de la terre fut donc devenu effectif. Et chaque victoire sur la tentation a mûri et approfondi sa vie intérieure. Il a reconnu toujours beaucoup plus clairement ce qui est bon de ce qui est mal, passant ainsi progressivement de la condition de l'innocence à celle de la maturité de l'adulte, tout cela dans une sainteté victorieuse et jusqu'à atteindre une perception du bien et du mal comparable à celle de Dieu. Cet arbre de la connaissance du bien et du mal était devenu à la fois l'autel et la tribune d'où Adam avait à rendre au Créateur l'obéissance légitime, à reconnaître la parole et la volonté de Dieu et à lui donner grâce. Si Adam n'était pas tombé, eh bien cet arbre aurait été semblable à un temple ou à une cathédrale selon Luther. L'arbre était encore un signe de l'autorité de Dieu sur l'homme et de la soumission de l'homme à Dieu. Même lorsqu'il interdit, Dieu souhaite bien plus donner que refuser. L'arbre avait enfin un but divin, c'est de servir d'instrument dans la main de Dieu pour l'éducation de l'homme et par là amener la transfiguration de la terre. Alors est venu le péché et l'homme perdit ainsi son Éden en sorte que le paradis, cette habitation de délices et de satisfaction, est devenu quatrièmement le lieu d'une lutte tragique. Le serpent avait promis à l'homme la connaissance du bien et du mal. En un sens, dénaturé, il est bien vrai, et il a tenu parole. Seulement, au lieu de percevoir le mal du haut des sphères élevées du bien, il perçut le bien des profonds abîmes du mal. Et selon le plan de Dieu, l'homme aurait dû, par la victoire sur la tentation, percevoir ce qui est bon et ce que serait le mal à travers le péché. L'homme perçut en même temps ce qui est mal et ce qu'aurait pu être le bien. Parce qu'il a péché concernant l'arbre de la connaissance, il doit maintenant être coupé de l'arbre de vie. Genèse chapitre 3, versets 22 et 23. La mort entre dans la race humaine et l'enfer de l'homme commence en son paradis. Je répète, la mort entre dans la race humaine et l'enfer de l'homme commence en son paradis. L'homme ne pourra pourtant jamais oublier son lieu natal. Tous les peuples ont chanté leur paradis perdu. Tous ont espéré, attendu et aspiré après son retour. Oui, l'homme est un Dieu tombé qui se souvient des cieux, selon le mot du poète, et c'est pourquoi le paradis est, cinquièmement, le but attendu d'une humanité nostalgique. Leurs espérances ne seront pas déçues. l'histoire de la fin rejoint l'histoire du commencement, de même qu'au premier âge de notre histoire, il exista un paradis terrestre. Ainsi, à la fin, sera instauré un paradis céleste sur une nouvelle terre. Apocalypse chapitre 22, versets 1 à 5. De plus, le Seigneur permet que même après la chute, subsiste la haute vocation de l'homme. C'est pour cela que la glorification de la terre reste en relation éternelle avec le perfectionnement de l'humanité. Les Écritures saintes font état, à plusieurs reprises, d'une profonde relation dans l'histoire du salut entre la terre et l'humanité, et le paradis correspond à l'homme dans l'innocence, la terre maudite, à l'homme en tant que créature déchue. Similairement, lorsque, au temps de l'Antéchrist, s'accuse un accroissement de péché, une détresse accrue doit donc venir sur la nature. Apocalypse chapitre 16, verset 1. Mais dans le royaume millénial, la nature participera à la bénédiction de la totalité de l'humanité. Ésaïe chapitre 11, par exemple. Et en fin de compte, le vieil univers périra quant à sa forme, selon la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 10, et Apocalypse chapitre 21. Avec la clôture de l'histoire humaine, en sorte qu'avec la glorification de l'humanité rachetée, puisse paraître une nouvelle terre, glorifiée. Apocalypse 21, verset 1. Donc, chers amis, nous voyons donc par là l'attente fervente de la création qui soupire après la manifestation des fils de Dieu. Notez Romains chapitre 8, verset 19, parce que elle ne peut être rendue participante de la liberté tant que les enfants de Dieu ne seront pas eux-mêmes manifestés en gloire. Romains chapitre 8, verset 19 à 22. Et vient ensuite le moment où l'humanité va atteindre en Christ son but béni. Venu sur la terre, il compléta son œuvre. Il s'humilia, il monta en croix pour y porter les péchés de l'humanité. Ressuscité, il gagna les cieux où il est maintenant. Maintenant, il est assis à la droite du Père jusqu'à ce qu'enfin il y introduise son propre peuple glorifié au jour où il se le présentera à lui-même et à son Père. Éphésiens chapitre 5, verset 27, ainsi que Hébreux chapitre 2, verset 13. Comme fils de l'homme, il a rendu parfaite l'œuvre que le Père lui avait donnée à faire ici-bas. Et comme homme, il porta la couronne d'épines qui lui offrait la terre révoltée et maudite. Et c'est pour cela qu'un jour, il régnera en tant qu'homme sur la même terre, enfin rachetée rachetée et libérée de toute malédiction. Éphésiens chapitre 1, verset 22. Le divin rédempteur est devenu homme et comme tel, il a racheté le gouvernement, le gouverneur humain de la terre. Oui, il l'a uni à lui-même, et cela dans une éternelle et inséparable unité, et il a effectué en même temps le rachat de la terre. Tel est donc le chemin que trouva la grâce divine. Ainsi subsiste la vocation initiale de l'homme, identique, mais maintenant remplie d'un contenu entièrement nouveau. En Christ, son chef, l'humanité atteint le but de son mandat. Comme dernier Adam, le Christ est pour elle le centre, la couronne et l'étoile, selon 1 Corinthiens chapitre 15 verset 45, et ajouter les versets 21 et 22. Et noter également Romains chapitre 5 verset 12 à 21. Je crois que nous ne pourrons pas prier ensemble, mais je dirais simplement, toute la race humaine est comme un cercle dont Jésus-Christ est le centre, toujours plus manifeste au cours de l'accomplissement du salut. Et je terminerai simplement en vous disant qu'en dépit de tout, le perfectionnement de la création se rattache à l'homme, le développement en suit des chemins qu'il n'aurait pas suivis si ça n'était la chute de l'homme. Mais le but final, il demeure. Et c'est parce qu'il demeure établi dans le plan de Dieu que l'homme soit le canal de bénédiction pour la création, que le diable ne peut être jeté dans l'étang de feu et qu'il ne peut y avoir un nouveau ciel et une nouvelle terre que après le grand trône blanc, c'est-à-dire après la conclusion de l'histoire de la rédemption de l'humanité. Notez Apocalypse chapitre 20 verset 21. Non, Apocalypse chapitre 20 et le chapitre 21. Et ensuite, notez encore le chapitre 20, les versets 11 jusqu'au verset 15. Nous terminerons donc maintenant cette étude et à demain matin, Dieu voulant, la suite, le numéro 4, où nous parlerons du péché et de la grâce. À demain donc, au revoir, mes très chers amis.